pardon, mais pour faire ton œuvre là-bas, que Dieu te bénisse.
Ah, je suis très, très content d'être ici. Heureusement, ce soir, le sujet de ce message n'est pas la patience. Parce que d'être coincé quelque part à Paris, dans une voie... Bon, quand même, il faut que je vous dise, j'ai passé 2h30 merveilleux avec Vincent Borel. Franchement, si jamais il faut être coincé dans un bouchon à Paris, il faut être avec Vincent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'abord, j'arrive déjà ce soir presque en tremblant, parce que j'ai 3 enfants nés à La Rochelle qui me disent presque chaque jour, « Oh, mais papa, tu as un accent. Oh, mais papa, tu fais des fautes. » Ce n'est pas la fin du monde. Hein? Et moi, je crois que je ne suis pas le seul ici ce soir qui a un accent. Par contre, je suis le seul qui est censé prêcher la parole de Dieu. Et c'est ça qui me fait trembler. Parce que franchement, quand je prêche la parole de Dieu, je ne veux pas faire les fautes en français, je veux être compris. Mais en fin de compte, heureusement, ce n'est pas mon français, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, j'arrive avec assurance que ce message va être prêché parce que c'est simplement la parole de Dieu que je vais vous présenter. Et donc, ce soir, on m'a demandé à parler de l'Église face à la crise. Et avant que je touche ce sujet, j'aimerais quand même passer quelques instants dans la prière, en priant. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et donc, Père, je prie en ce moment que nos cœurs soient prêts, Père, à écouter ta parole. Je prie, Père, que tu puisses enlever les pensées de cette journée, Père, les moments de stress. Je prie vraiment, Père, qu'on puisse être centré sur ta parole, Père. Et donc, Père, je prie ce soir, ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Et qu'on soit transformé, Père, par la parole qui est travaillée, Père, par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Et Père, je prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, voilà, donc, quand on m'a demandé à donner cette prédication, moi, j'ai vu, l'Église face à la crise. Très bien, pourquoi pas. Hein. Mais ensuite, je me suis dit, mais quelle crise ? Non, mais franchement, et donc j'ai pris le temps, très peu de temps, c'est très facile. Donc je suis allé sur google.fr, Google qui sait tout, et j'ai tapé, entre guillemets, la crise. Elle est née avec 15 millions de sites à visiter. Donc je suis pasteur, j'ai le temps. Non, ça c'est complètement faux. Mais bon, voilà ce que j'ai trouvé. La crise financière, la crise des subprimes, la crise d'éducation, la crise alimentaire, la crise de la grippe, la crise suicidaire, la crise de la PS, la crise du logement, la crise écologique et surtout celui, et là franchement j'avoue j'ai passé quelques instants, la crise chez des bleus. Bon, et là franchement il y a beaucoup de sites, presque plus qui parlent de ça que d'autres choses, mais en fin de compte, quelle crise ? Donc, je me suis dit, bon, peut-être je ne comprends pas parfaitement bien la langue française, donc je vais voir dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire, la crise. La crise, c'est une période difficile traversée par un individu, par un groupe ou par une société dans son ensemble. Bon, voilà, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire, la crise. Mais on m'a demandé aussi à trouver la crise et parler de la crise et toucher la crise dans Romains chapitre 13. Et là, ça change, hein. Parce que franchement, dans Romains chapitre 13, j'ai vu très peu de la crise financière, la crise des subprimes et la crise chez des bleus. Même je n'ai rien trouvé là, sauf ces versets. Donc, j'ai pris le temps, simplement pour voir un peu le contexte de ce passage. Donc, ça va être dans quelques instants, mais on va regarder Romains chapitre 13. Mais avant, j'aimerais vous donner un peu le contexte de cette crise, une crise réelle qui touchait cette église. Donc, pour parler de cette crise... Il faut passer du moment où Paul, dirigé par le Saint-Esprit, il a écrit cette lettre, et il faut passer à peu près 100 ans avant ce moment-là. Et là, il y a 100 ans, donc c'était dans l'année 63 avant Jésus, il y avait un général qui s'appelait Pompée le Grand. Et Pompée le Grand, il est descendu en Judée pour régler quelques comptes, Et ben voilà, en fait, finalement, il a capturé la ville de Jérusalem. Et à ce moment-là, il avait mis en prisonnier énormément de juifs, surtout les soldats, mais juste les juifs. Et voilà, figurez-vous ce qu'il avait fait. Il avait envoyé ces juifs à Rome. À tel point que quelques temps après, il y avait un philosophe juif, Philon d'Alexandrie, qui a écrit « Le vaste quartier de Rome, au-delà du Tibre, était occupé et habité par des juifs. La plupart étaient des affranchis romains. » Donc, comme des personnes normandes, ben voilà, ces juifs s'est mariés, ils se formaient en couple, et voilà, il y avait des enfants. Et à peu près 60 ans après, il y avait cette fois l'historien Flavius Joseph, qui a écrit un procès à Rome, et à ce moment-là, tous les hommes juifs ont signé un document pour le procès. Et donc les historiens, bon, comme les bons historiens, ils ont pris, ben voilà, 8000 hommes juifs dans la ville, avec, maintenant on multiplie par 2 pour les femmes, et maintenant on multiplie par 3 ou 4 pour les enfants. Et ils sont arrivés à peu près avec entre 40 et 50 000 juifs au temps de la naissance de Jésus dans la ville de Rome. Voilà. Et, mais ce n'est pas encore une crise, hein. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé après la mort et la résurrection de Jésus. Et là, ça c'est dans la Bible, Actes chapitre 2. Ils étaient, Actes chapitre 2, verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, non sont-ils pas tous les Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Ben voilà, je prends côte. Et à la fin du verset 10, et ça parlait de ceux qui ont été là, de ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes. Et donc, il y avait des juifs sauvés qui sont ensuite allés à Rome. Donc, on parle de le livre de Romains, et cette église, on n'est pas certain, mais on pense que cette église a été commencée à cause de ces juifs sauvés le jour de Pentecôte. Et voilà, l'Église, comme ça se faisait, et ça doit être le cas d'aujourd'hui, ben voilà, il y avait des saluts, il y avait des témoignages donnés, les gens sont venus à Christ, et voilà, une Église s'est formée. Mais même maintenant, avant que cette lettre soit écrite, il y avait quelque chose ensuite qui s'est passé. Il y avait l'empereur Claude, et je ne veux pas m'abuser, en 49 après Jésus, à cause d'une dispute, à cause d'un problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté des juifs hors de Rome. Là encore, on a la Bible. Actes chapitre 18, Paul, il est à Athènes, et il a trouvé là un juif qui s'appelle Aquilas, originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Pourquoi ça s'est passé? Il y avait un historien qui a écrit de ça, Suéton. Il a dit, Claude, il chassa de la ville les juifs qui se soulevaient sans cesse à l'instigation d'un certain Christus. La plupart des historiens pensent que Christus était une malformation du mot Christos. Les historiens pensent que Claude, il a jeté tous les juifs hors de la ville parce qu'il y avait certains juifs qui provoquaient des problèmes, si on veut dire, à cause de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y avait une église qui était dans la majorité juive. Les personnes là, juives dans l'église. Ils étaient tous chassés de la ville. Qui prend la suite? Ben nous, les païens. Sauf si vous êtes par naissance juif, bon, vous faites partie, mais pour les autres, ben voilà, l'église à ce moment-là a pris une autre dimension. Tout d'un coup, il n'y avait plus de juifs dans la ville, il n'y avait que des romains, des païens. L'interdiction de Claude pour les juifs dans la ville, ça a duré 5 ans. Après, il est mort, et voilà, les juifs peuvent revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église a changé. Ce n'est plus la même église. Ah, excusez-moi, mais on fait un repas fraternel, et ça c'est du peur. Mais tu rêves? Ça ne s'est jamais fait dans cette église comme ça. Moi, je n'ai pas un seul verset qui me montre cette crise, mais c'est pour moi l'ensemble. C'est le fait que quand Paul, quand il parle dans chapitre 1, verset 5, il dit, « Pour lui, Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Il y a même d'autres versets qui montrent, c'est assez clair, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de païens dans l'Église. Et les Juifs qui ont été jetés hors de la ville sont revenus, et forcément, il y aura une crise, un conflit. Un conflit de culture, un conflit, un problème. Chapitre 14, qu'est-ce qu'on parle? Ce qu'on mange, de quel jour on fait ceci et quel jour on fait cela. Mais il y a une vraie crise dans l'Église. Et cette fois, les crises, ça s'appelle un conflit. Ça vous dit quelque chose? Un conflit. Bon. À La Rochelle, il fait tellement beau. On n'a que du soleil, on n'a que de beau temps, on n'a jamais... Bon, non. Un conflit dans l'Église. Une crise. La crise qui se passe aujourd'hui, si on parle de la crise financière, à mon avis, ça se base aussi beaucoup sur un conflit. Riche-pauvre. Ceux qui veulent être riches et ceux qui ne sont pas. Et à mon avis, quand on touche cette idée de crise, on touche vraiment l'idée de conflit. De problèmes. Qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que c'est une crise? Une période difficile traversée par un individu. Donc l'individu il peut être en conflit avec lui-même ou quelqu'un d'autre. Mais surtout, un moment difficile, une période difficile traversée par un groupe. Ah ben voilà, la crise dans l'Église. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire face à cette crise? Et c'est là qu'on entre dans Romains chapitre 13. Donc je vous invite à trouver Romains chapitre 13. Et là, on commence verset 8. Et tout d'abord, face à cette crise, Dieu nous donne un commandement. Il commence ici, Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ici, dans le verset 8, quand l'apôtre Paul a employé le mot « ne devait rien à personne », ça c'est un mot, mais dans la forme, bien sûr, là, c'est un verbe. Mais le nom de ce verbe, en fait, le mot est aussi employé dans le verset 7. Quand il dit « ne devait rien à personne », excusez-moi, verset 7, « rendez à tous ce qui leur est dû ». C'est tout à fait le même mot que l'apôtre Paul a employé là. D'un sens, c'est un nom, et l'autre, c'est simplement le verbe. Donc, qu'est-ce qu'il dit simplement là? Il dit, réglez vos dettes. Si vous avez une dette, il faut régler cette dette. Sauf. Et là, quand il dit, si ce n'est, ça peut être aussi traduit, sauf quoi? Sauf votre dette d'amour. Et il se peut que, en ce moment, vous dites, je ne savais pas, j'étais endetté avec l'amour. Mais Marc, merci, hein, je lis bien aussi le français, je vois ce que ça veut dire, mais je n'avais aucune idée. L'apôtre Paul, il parle de cette dette d'amour. Vite fait, voyez dans vos Bibles, dans Romains chapitre 1, et là, je vais vous montrer, vous êtes endetté. Je suis désolé, hein, mais... Romains chapitre 1, verset 14. Et ici encore, l'apôtre Paul, il emploie un mot qui, dans cette même famille de dette, de devait quelqu'un, il dit, chapitre 1, verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, Paul, il dit, je suis en dette à qui? Aux Grecs et aux barbares. Et donc, la manière, je vais repayer cette dette-là, je vais aller à Rome pour annoncer l'évangile. Donc, quelque part, la dette, ça touche aussi son désir de parler, de témoigner. Mais quand même, encore, ça ne touche pas exactement pourquoi il est en dette. Et là, on avance, on recule là un peu, chapitre 1, verset 5, qui dit encore, par lui, par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Paul dit, mon travail, c'est quoi? Je suis en dette et je vais payer cette dette par le fait que je vais témoigner aux païens. Je vais aller à Rome pour annoncer l'évangile. Et la dette, c'est quoi? C'est par lui nous avons reçu la grâce. La dette de l'apôtre Paul, c'est simplement la grâce, si on veut dire l'amour que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Et maintenant, il est censé de repayer sans cesse cette dette de la grâce et le fait que, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il y a même un autre verset, et là on va sortir un peu de l'apôtre Paul, juste très vite fait, 1 Jean chapitre 4. Et ici, je vais vous montrer un verset dans 1 Jean 4, où Jean, il emploie exactement tout à fait le même mot grec qu'on a vu dans chapitre 13, verset 8. 1 Jean 4, verset 11. Qui dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, on est en dette, si nous aimer les uns les autres. Je vais être très honnête avec vous, ce verset me trouble un peu. Parce qu'en fin de compte, ça ne dit pas, car Dieu m'a tant aimé, car Dieu m'a aimé d'abord, maintenant il faut que je m'aime. Parce que franchement, moi j'ai aucun problème pour m'aimer. Je me regarde dans le miroir. Bon, ok, d'accord, tu n'es pas le plus beau et tu peux perdre 500 grammes, mais quand même. Mais vous voyez même le fait que je me parle comme ça. Pourquoi je veux perdre quelques kilos? Bon, c'est pour ma femme, hein. Comme ça, elle me trouve plus beau. Hein. Pour moi. Je n'ai aucun problème dans l'auto-amour. Mon amour pour moi-même. Mais vous, et vous êtes quand même très gentil, hein? Vous êtes bien habillé, bien coiffé, aucun problème, mais vous, mais la Bible dit, à cause du fait que Dieu m'a aimé d'abord, parce que Dieu m'a donné son amour, je suis en dette. J'ai une dette d'amour, il faut que je repaie chaque instant de ma vie. Et le plus que je fais des efforts pour repayer l'amour de Dieu, le plus que je suis en dette. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ne devez rien à personne, sauf cette dette d'amour. Et quand vous êtes face à la crise, quand vous êtes face à un conflit, vous avez un commandement de Dieu, vous avez une dette à repayer, c'est la dette de l'amour. Mais encore, moi j'ai une deuxième question pour ce commandement. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et même quand on fait des études bibliques, on sait, hein, il y a plus qu'un mot grec pour notre mot amour. Et quand on vient des States et on dit à ma femme, oh mes chéris, je t'aime. Et ensuite je tourne vers le chocolat et je dis, ah mais j'aime le chocolat aussi. C'est pour ça que, bon, ce n'est pas les Américains, c'est les Anglais qui ont inventé le mot like. Ah, ce mot qui m'aide énormément. Mais je peux dire que j'aime bien le chocolat, mais j'espère que j'aime bien le chocolat plus moi que j'aime ma femme. Heureusement, ce n'est pas enregistré. Hein, alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot amour? Bon, ici, on a le verbe pour le mot agapé, c'est agapao. Et moi, je vais vous lire certaines choses que j'ai trouvées dans les dictionnaires bibliques, dans les commentaires, d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un amour agapé, d'avoir ce verbe agapao? C'est amour sans condition. Amour sacrificatoire. Amour fait par un choix. Amour de service par l'humilité. C'est un amour de la volonté, de générosité. Un amour intentionnel, un amour désintéressé, dévoué. C'est une disposition de cœur pour chercher le bienfait de l'autre. C'est un amour qui n'est pas motivé par l'apparence superficielle, ni attirance émotionnelle, ni sentiment relationnel. Ce mot n'est pas basé sur les émotions agréables ni les bons sentiments qui viennent d'une attirance physique ou un lien familial. Ce mot, c'est simplement le fait de choisir par acte de dévouement de servir l'autre. C'est un dévouement au bénéfice de l'autre. C'est un amour sans restriction, sans restreint et sans condition. Et quand je lis tout ça, je me sens à peu près comme ça. Je connais tellement peu cette idée ici. Oh oui, quelques fois ici et là, mais franchement, un amour sans restriction, sans restreint, sans condition, un amour qui cherche toujours le bien de l'autre. Ben, je veux bien, il y a un commandement. Mais heureusement, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a parlé de progrès en progrès. Et là, je crois qu'on est tous là. Mais on voit ici le commandement que l'apôtre Paul nous a donné quand on est face à une crise, surtout là, le conflit. Mais ensuite, dans le verset 9 et le verset 10, excusez-moi, je suis dans 1 Jean 4, donc ça va pas du tout. Voilà. Oui, bien sûr. Donc là, quand on est dans le verset 9 et 10, on comprend, voilà le commandement. Ne devez rien à personne sauf votre dette d'amour. Mais ensuite, c'est la mise en pratique ou comment régler votre dette. Même si ce n'est pas possible parce qu'il faut aimer à 100% comme Dieu a fait. Et voilà un but, mais un but qui est impossible. Mais comment mettre ça en pratique? Donc là, ici, l'apôtre Paul, il commence à nous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un amour agapé. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, d'abord, moi je pense que simplement il a cité 4 des 10 commandements pour montrer que chaque commandement peut être amené à sa perfection simplement avec un amour agapé. Et, bon, je vais quand même prendre le temps, mais très vite fait, tu ne commettras point d'adultère. Comment l'amour agapé tombe là? Pour faire l'adultère, moi je suis convaincu, il faut être un homme marié. C'est mon avis basé sur ce mot-là. Donc, je parle d'homme marié. Moi j'ai une femme. Et par intérêt à ma femme, je refuse de voir, même considérer le corps d'une autre femme. Pour amour agapé pour ma femme. Parce que je ne veux jamais, jamais déshonorer ma femme par l'adultère. 2, moi je ne veux pas violer, je ne veux pas aller trop loin avec cette autre femme-là. Parce que si c'est une femme mariée, son cœur appartient à son mari. Je dois ce respect à cette femme, et par amour et intérêt pour cette femme-là, je refuse même de regarder son cœur, de penser aux autres choses. Un amour pour son mari. Si elle n'est même pas mariée, un intérêt pour son futur mari. Tout ce qui tombe dans cette idée d'aimer, d'avoir un intérêt de l'autre avant, mais mon propre intérêt. Donc si j'ai un désir, no stop. Par intérêt, par amour pour l'autre, je dis non. Pour ma femme, pour l'autre que je puisse regarder. Voilà comment ça se met en pratique. Mais surtout, ce que Paul a dit ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous n'avez aucune idée combien je veux sauter cette phrase-là et d'aller ensuite avec la fin de cette prédication. Je vais vous expliquer pourquoi. Pauvre Vincent, il a déjà entendu cette illustration. On commençait de parler un peu de ce message dans la voiture, donc dors bien, mon ami. Hein. Mais j'étais en pleine préparation de ce passage. Et j'ai demandé à ma femme si je peux partager cette illustration, donc elle est complètement d'accord. Il y a 3-4 semaines, ma femme, elle passait un moment difficile de sa vie. Mais tellement difficile que franchement, elle n'était pas trop gentille avec moi, voire elle était un peu méchante. D'accord? Et sérieusement, bon, je sais, on blague parfois, on rigole avec ces choses-là, mais vraiment, c'était complètement sa faute, c'est elle qui m'a dit ça. Non, mais Marc, t'as raison, j'ai complètement peur, c'est moi, c'est pas toi, je vais pas bien. Quand on était vraiment au moment le plus compliqué, j'étais à Carrefour. Et franchement, j'étais pas content. Et j'avais vraiment un but de ma vie. Ben voilà, ma femme, tu vas là-bas, tu achètes ce qu'il faut, et moi je vais bouder dans le rayon télé, ordinateur. Mais vraiment, j'avais pris le choix, j'avais boudé. Mais j'étais furieux. Après tout ce que j'ai fait, Et ensuite, je dis, oui, j'ai donné naissance à 3 enfants et j'ai préparé les repas. Oh non, c'est elle. Donc, mais vraiment, j'étais furieux parce que, comment elle peut me traiter comme ça? Déjà très égoïste de ma part. Et tout d'un coup, j'ai commencé à penser à ce passage-là. Parce que j'étais pleinement dans mes préparations. Penser à l'intérêt de l'autre. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Contre mon propre désir, je suis allé acheter un bouquet de fleurs pour ma femme. Non. Avec les dents serrées. Le pire. Et après, je l'ai tombé, mais j'ai dit à ma femme. Et après, elle m'a repris. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, tu ne mérites pas ces fleurs, mais quand même. Même en donnant l'amour agapé, nous les hommes, on est bêtes. D'accord? Désolé, hein? Sauf que vous n'êtes pas comme moi, donc bravo. Hein? Non, mais honnêtement, c'est ma femme. Franchement, si dans les prochaines secondes, il y avait un appel de ma femme qui dit, Marc, reviens tout de suite. Au revoir. Non, mais franchement, s'il faut du vélo, du train, du bus, du stop, c'est ma femme. Non, mais franchement, vous êtes très, très génial. Je vous aime tous, mais vous n'êtes rien en comparaison avec ma femme. Et si après, je fais 5 heures à Saint-Denis-la-Rochelle et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, tu m'as manqué beaucoup. Ok, d'accord. Non, mais je peux accepter, c'est ma femme. Mais dans ma nature pécheresse, j'ai passé ces moments-là quand j'avais vraiment du mal à montrer l'amour agapé à ma femme parce qu'elle m'a enfoncé. C'est ma femme. Et qu'est-ce que la Bible dit? Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ton prochain? C'est toute autre personne. Et si deux sont concernés, c'est l'autre. Vous ne croyez pas que c'est vrai? Regardez la Bible en ligne, qui ne ment jamais. Selon Christ, tout homme sans considération de race ou de religion avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. Mon prochain, c'est celui qui est là. Et c'est lui qui est là. Et si je bouge, c'est encore celui qui est là. C'est simplement l'autre. Aime l'autre comme toi-même. C'est très, très facile. Et si c'était moi qui passais un moment difficile, si c'était moi qui est un peu méchant, qu'est-ce que je veux de ma femme? Un bouquet de fleurs? Non, du chocolat. Mais, non, mais vraiment, si je vais mal, vous savez ce qui me fait plaisir? Que ma femme, elle me donne un cadeau. Ou simplement, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Elle me donne un petit câlin. Si je vais mal, j'aime ça beaucoup. Mais quand elle va mal, oh non, mais d'abord, je veux bouder, et après, vous voyez combien c'est difficile d'avoir l'amour agapé avec les autres. Je ne suis pas aveugle. Hein. Je regarde, je vois, il y a quelques pasteurs ici. Cher ami, quand c'est la femme qui parle sans cesse, et vous savez, c'est elle qui appelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si c'était vous qui parlez sans cesse, comment vous voulez être traité? Et si c'est la personne qui vous énerve, vous voyez de qui je parle. Hein? On ne sait pas pourquoi, hein? C'est juste, par nature, ça frotte. Et si c'était vous la personne qui énervait l'autre? Et si c'était vous la personne qui posait des problèmes? Et si c'était vous qui avez des moments de détresse? Et si c'était vous qui étiez déprimé? Et si c'était... Et vous voyez? Aimer l'autre. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et honnêtement, je vais être très sérieux, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce verset. Parce que j'aime beaucoup quand les gens sont patients avec moi. Mais pour montrer la patience aux autres, ça s'appelle l'amour agapé. Et face à la crise, et face au conflit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On sait. Réglez vos dettes, payez vos dettes, sauf la dette de l'amour. Parce que quand vous étiez ennemi de Dieu, odieux. Quand Dieu ne pouvait pas supporter vos péchés, à ce moment-là, il a envoyé son Fils unique, car Dieu tant aimait le monde. Et alors, franchement, moi, je fais un appel ce soir dans ce sens. Qui est la personne qui vous énerve? Qui est la personne qui est difficile à supporter? Quel membre de l'Église vous donne quelques moments compliqués quand ils arrivent pour dire « Ah, j'ai encore une chose à te dire. » Amour agapé qui dit tout simplement « Aime cette personne comme toi-même. » Et si vous avez quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous gratte, vous aimez beaucoup quand il y a une oreille qui est là pour écouter. Et alors, c'est comme ça qu'on doit traiter l'autre. Et là, maintenant, je termine simplement avec deux choses. Parce que bon, c'est aussi en même temps le thème de cette conférence, de ce moment, et c'est dans le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Tout simplement, moi je vais traiter là le commencement du verset. Quand ça dit cela importe d'autant que vous, plus que vous savez. Le mot là, savez, savoir. Enfin, quand c'est traduit d'un mot qui est souvent traduit voir. Et c'est l'idée de percevoir avec les yeux ou de voir, de discerner, de tourner son esprit, de tourner son attention. Et donc il dit, cela importe d'autant plus que vous savez, donc vous êtes au courant. Et en plus, l'apôtre Paul, quand il a écrit ça, le mot vous savez, il employait dans un temps qui s'appelle le temps parfait. Le temps parfait, c'est simplement quelque chose qui se passe dans le passé, mais qui dure aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fait, mais les résultats sont d'aujourd'hui. Donc, vous savez, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? En quel temps nous sommes? Vous voyez le temps. Dans l'époque de l'apôtre Paul, il y avait deux mots pour notre mot temps. Il y avait le mot chronos, qui parlait de temps court, long, du temps. Ici, ce n'est pas ce mot-là. C'est un mot qui est souvent traduit dans le Nouveau Testament avec le mot époque. Ah, mais ça m'a beaucoup aidé là. Vous savez l'époque qu'on est. C'est l'heure, c'est le moment de quoi? De vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi il faut aimer les uns les autres? Pourquoi il faut régler nos conflits? Pourquoi il faut faire face à la crise? On voit l'époque qu'on vit. Alors, parmi les 18-25 ans, quelle est la chose qui ruine plus de vies, qui amène les vies, qui tue ces jeunes-là? Ceci. On voit notre époque. On voit notre époque avec les drogues, on voit notre époque avec le sport, la télé, les films, l'argent, les maisons, la détresse, le chômage. On est vivant! Les yeux sont ouverts et nous voyons notre époque. On sait que ça s'approche, le retour de Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut pour l'Église dans cette crise? L'amour agapé. De dire au voisin qui joue la musique jusqu'à 3h du matin, je t'aime. Je t'aime tellement que je vais appeler la police, mais quand même, je t'aime. Parce que, vous savez, moi j'aime beaucoup mes enfants et c'est pour ça que je leur donne des fessées. Donc, l'amour n'est pas toujours « Oh non, ça va, c'est bon. » Mais après, j'appelle la police, je parle avec mon voisin, je ne suis pas fâché avec lui, c'est simplement que je veux dormir. L'amour agapé. Parce qu'on sait, on voit, on comprend notre époque. Et c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant même de commencer à donner davantage l'amour agapé. Et finalement, je termine juste avec deux pensées. Pourquoi? Bon, déjà, c'est commandé, hein. Donc, Dieu dit, je fais, voilà. Mais aussi, d'abord, je cite un homme, c'est un, un père de l'Église, hein, ça montre dans l'histoire de l'Église. Je ne suis pas tout à fait complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais c'est Tertullien. Mais il a dit quand même, mais c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comment ils s'aiment, comme ils s'aiment les uns les autres, car eux se détestent les uns les autres. Ensuite, citation de ces non-chrétiens. Voyez, dit-on, comment ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, car eux se sont plutôt prêts à se tuer les uns les autres. C'est ce qu'il a dit là, au début de l'Église. Mais je connais quelqu'un que je suis beaucoup plus d'accord avec ce qu'il dit, il s'appelle Jésus. Et Jésus, il a dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Père, que tu nous as tant aimés, que tu nous as envoyé ton Fils unique. Et Père, ce soir, je prie vraiment que tu travailles dans nos cœurs, de nos situations, Père, face à cet amour. On sait déjà, Père, que personne n'est parfaite. Il n'y a aucune personne, Père, dans cette église en ce moment, qui peuvent se lever, Père, en disant « Je suis parfait, j'ai l'amour agapé à 100%. » Et Père, je prie ce soir que vraiment tu travailles dans ceux qui luttent, Père, avec cette idée. Il n'est pas toujours facile, Père, à aimer les autres quand les autres sont désagréables. Et Père, je prie que tu nous montres la vérité de ces versets, que tu nous montres aussi, Père, la vérité de ta parole, que tu nous aimes malgré, Père, nos péchés. Et Père, tu nous demandes maintenant à aimer les uns les autres. Et Père, je prie que ce soir, s'il existe un flux entre certaines personnes, Père, ici présentes ce soir, que ce conflit, Père, puisse être réglé simplement par l'amour agapé. Et donc, Père, je prie ces choses en nom Seigneur Jésus. Amen.